Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room.
Donc, est-ce que toi, tu trouves que, comparé aux générations précédentes, que l'homme a perdu sa place dans cette génération? Ou qu'est-ce que tu en penses?
Alors, moi, personnellement, je dirais pas qu'il a perdu sa place, mais je dirais que la place de l'homme, en tout cas, était peut-être redéfinie.
Ok.
Je pense qu'il faut voir ça sous plusieurs angles, notamment... on va parler, enfin, je pense au cours de la discussion, vu qu'on abordera ces points, mais tout ce qui est les mœurs, les normes de genre, les attentes un peu sociétales qu'on peut avoir vis-à-vis de l'homme. Parce que, enfin, bête exemple, si on prend par exemple, on va dire, l'homme il y a 100 ans, on va dire un peu avant, genre les 30 Glorieuses, tout ça, je pense que la place de l'homme, c'est plus celui du coup qui est assumé par son statut social, la manière dont il va ramener l'argent à la maison et autres. Et je pense qu'on n'a pas du coup la même position pour l'homme et la femme.
Ouais.
Dans la société.
Donc, ouais.
La place, je pense pas qu'il a perdu, mais elle s'est remodifiée parce que l'homme et la femme ont évolué aussi à travers le temps. Donc il n'y a plus forcément les mêmes attentes dans notre société, je pense,
ouais.
Des deux genres.
Ouais, c'est vrai.
En fait, nous, quand on pose cette question-là, c'est parce qu'on a fait une sorte de constat, mais constat avec un échantillon très petit. Mais genre, on se rend compte qu'au niveau juste familial, avant de partir de la société, que la femme ou la maman a une place beaucoup plus importante que l'homme à l'époque, tu vois.
Dans la société
Juste dans une famille classique, on va dire, ou peut-être pas forcément classique, où justement le père est parti, et du coup, c'est la femme qui prend aussi le rôle de l'homme.
Du père, ouais.
Du père, et que du coup, ça a des répercussions sur l'éducation des enfants, parce que ils n'ont plus cette figure masculine qui est assez présente à cause... c'est comme si ça avait créé un déséquilibre. Et du coup, on se dit, maintenant, comme on a des familles qui sont plus ou moins monoparentales, ça a aussi des répercussions à grande échelle sur la société. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est intéressé sur ce sujet en se demandant, mais est-ce que vraiment l'homme a perdu sa place? Et comme tu l'as dit, peut-être qu'on ne peut pas comparer l'époque à aujourd'hui, parce que voilà, les mœurs sont changées, et tout a été redéfini. Aujourd'hui, la femme peut aller au travail, elle peut gagner de l'argent. Depuis, je ne vais pas dire des bêtises, c'est toi qui vas me corriger. depuis l'après-guerre et tout ça, ou non, pendant la guerre, parce que justement, les hommes étaient sur le champ de bataille, et du coup, les femmes devaient ramener le pain à la maison. Et qu'elles ont découvert le monde du travail. Elles se sont dit, ah ouais, ok, donc c'est ça. Donc moi aussi, je peux avoir mon argent. Et du coup, c'est pour ça qu'on se posait cette question-là. Et avoir la vision d'un homme, justement, par rapport à cette question-là, je sais pas si ça...
Mais du coup, oui, enfin, du coup, l'émancipation des droits de femmes des années 60. Mais je pense, en fait, que il y a plutôt deux points de vue, dans le sens où si un homme, par exemple, aujourd'hui, son statut, on va dire, dans la société, je pense qu'on est un peu plus en phase avec la personne qu'on est aujourd'hui, on nous pousse plus à prendre conscience de nos émotions,
de
ce que l'on ressent.
Ouais.
Et donc, peut-être que ce shift vers la prise de conscience des hommes entraîne du coup peut-être une faiblesse de la manière dont les hommes sont perçus, alors qu'avant, on avait toujours ce côté un peu fort, stoïque.
Yeah.
Et donc, l'homme, il va passer ces valeurs-là aux enfants. Nous, je pense encore, dans notre génération, on a grandi avec des parents qui viennent justement de ce milieu-là.
Ouais.
Et donc, il y a un peu cette cassure, je dirais, entre la génération de nos parents et notre génération, parce que nous, en tout cas dans notre société, les hommes sont un peu plus, je dirais, en phase psychologiquement parlant, alors que nos parents, moi je prends l'exemple par exemple de mon père ou autre, c'est toujours, non, l'homme ne peut pas pleurer, on grandit en fait avec ces attentes un peu au niveau des hommes, tu dois être fort, assertif, dominateur, et surtout l'accent sur la carrière professionnelle, mais... La femme aussi évolue de son côté. Vous, vous êtes des êtres un peu plus déjà en phase naturellement avec les personnes que vous êtes. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure que les femmes se battent pour leur égalité et l'équité dans leurs droits, elles prennent plus de place aussi, du coup, naturellement dans la famille. Et je pense que nous, en tout cas, dans mon entourage, parce que je n'ai pas fait le test ni rien, Mais je pense que l'amour d'une mère, en tout cas la relation qu'on a avec une mère, est plus spéciale que celle qu'on a avec un père, par exemple.
Mm-hmm.
Et je pense qu'on en tire un peu plus au niveau du coup, de la personne qu'on est au niveau de notre mère plutôt que notre père. Alors que notre père, on va le regarder comme cette figure paternelle, un peu cet objectif au niveau de la carrière ou autre, comment être. C'est un peu ce côté où, un peu plus froid, un peu plus dur, mais c'est ouais, cette stature ouais. comme ça auquel,
ouais.
enfin, à laquelle on regarde un peu.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai.
Est-ce que tu as l'impression que ça. Le fait que l'homme soit plus en phase avec ses émotions, ça peut le féminiser plus.
J'ai déjà entendu du coup ce concept. Moi, je dirais que non, parce que la masculinité, comme on enfin, avec laquelle on a grandi, parce que nous, je pense notre génération, donc fin des années 90, début des années 2000, on grandit avec ce shift culturel où on nous apprend en étant petit que la masculinité, c'est tout ce qui est être fort. Être stoïque, ne pas forcément laisser ses émotions prendre le contrôle.
Ouais.
Mais la société dans laquelle nous on vit aujourd'hui, je pense qu'on le voit dans le climat social et politique, les hommes ne sont pas forcément affaiblis, mais sont beaucoup plus expressifs.
Mm-hmm.
Donc c'est un peu plus normal aujourd'hui de voir un homme pleurer, de voir un homme dire, partager ses émotions. Aujourd'hui, dans les sociétés d'Afrique subsaharienne, nous, notre génération, je pense, on est plus en face avec tout ce qui est l'abcès psychologique, aller voir un psychologue, consulter. Et donc, je pense pas que c'est forcément se féminiser, parce que pour moi, en tout cas, je pense qu'une masculinité saine, c'est quand on a tant ce côté, oui, froid, stoïque, notre pouvoir, mais aussi cette vulnérabilité, parce que je pense que c'est ça le plus important, en vrai, dans notre société. Mais je pense que c'est ça le problème. Si on met la vulnérabilité en avant, on est en soi à nu, on se dévoile, en fait, complètement.
Ah, oui.
Et donc, on a peut-être cette peur d'être jugé par les autres et de se dire que les autres peuvent prendre le dessus sur nous. En laissant ce côté de nous paraître.
Mmh.
Donc c'est pour ça que je pense qu'on grandit en apprenant à le cacher. Mais quand on arrive à l'âge adulte, il y a un peu ce contraste avec la société dans laquelle on est, ce qu'on nous a appris.
Mmh.
Et donc il y a tout un travail, je pense, à refaire. Je ne pense pas que ça féminise forcément, mais ça nous permet justement de rentrer en contact avec qui nous sommes.
Mmh. Ouais. Ouais, c'est important. Après, je ne sais pas si toi, même, bon, comment tu le vis en tant que jeune garçon bon.
Mmh.
Jeune homme,
désolé. En tant que jeune homme, est-ce que tu as la facilité à être vulnérable ou est-ce que tu... Bon, c'est difficile pour toi.
Bah moi, je suis une personne assez sensible déjà de base. Mais par exemple, dans ma famille, je m'ouvrirais plus facilement à ma mère qu'à mon père.
Ok.
Parce que mon père, c'est pas quelqu'un forcément que j'ai vu déjà pleurer ou autre qui montre forcément ses sentiments.
Mm-hmm.
Alors qu'avec ma mère, j'ai toujours plus facile à avoir ce contact. Et dans mon entourage, je pense que ça se démocratise au fil des années parce que l'entourage que j'ai, en tout cas, je l'ai depuis assez longtemps, on a grandi ensemble. Et je vois aussi le changement, notre conversation qui change, on peut s'ouvrir plus facilement. Et il y aura toujours, je pense, cette place pour être vulnérable. Donc, en tout cas, la manière dont je suis entouré, je me sens assez à l'aise de le faire. Maintenant, c'est vrai que, on va dire, gérer mes émotions, c'est pas quelque chose... Je suis encore très en phase à l'heure actuelle.
Ouais.
Donc, c'est pas toujours facile de faire le premier pas, d'aller s'ouvrir.
Mmh.
Je pense pour n'importe qui, parce que c'est admettre une faiblesse en nous.
Exact, ouais.
Laisser
ouais.
l'autre rentrer dans une partie de nous qui, déjà pour nous, est compliquée à gérer. Et c'est inviter un peu quelqu'un dans un espace privé.
Ouais.
On sait pas, les gens changent chaque jour, donc on sait pas, aujourd'hui on se confie, mais de quoi sera fait le lendemain.
Ouais, voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la raison pour laquelle un enfant a la facilité de s'ouvrir chez sa mère, c'est parce que la femme est un être, disons, émotionnel, en ce sens-là, et que l'homme est plus une personne qui a, comment dire, qui est plus logique, qui n'est pas vraiment dans les émotions? Vous pensez que ça, c'est dû à ça que...
Bah oui, je pense bien, parce que justement, quand tu veux t'ouvrir, c'est tu fais appel au domaine des émotions et de tout ce qui n'est pas cartésien et tout ça. Et bah, du coup, tu vas directement vers cet être qui est plutôt dans ce domaine-là, on va dire.
Mm-hmm. Tu vois. Mais dans quel domaine, alors, tu pourrais aller chez un père, disons?
Personnellement, et c'est là que je pense que j'ai quand même un bon équilibre au niveau de mes parents. Ma mère, ce sera beaucoup plus sur le côté émotionnel ou autre. Et je pense que la raison pour laquelle je ne me tourne pas vers mon père, c'est parce qu'on a grandi dans ces sociétés où nous, on voit les hommes plus comme des gens qui doivent accomplir, venir pourvoir pour certaines choses. Donc, on ne va pas forcément aller vers eux pour cette aide émotionnelle.
Ouais.
Mais mon père, je vais plus aller vers lui, vers tout ce qui est genre des conseils, oui, dans la vie de tous les jours,
ouais.
La carrière, le spirituel, des choses comme ça. Non pas que les femmes sont moins spirituelles que les hommes, parce que ça, il n'y a pas forcément de standard ou autre, mais c'est juste que je me vois plus aller vers mon père dans ce genre de choses-là et vers ma mère pour tout ce qui est l'émotionnel, le relationnel.
Ouais.
Je pense que ça, c'est dû au fait que nous, les hommes, en majorité, j'ai pas fait les stats, mais je pense que c'est un constat général, on est moins en phase avec ce côté relationnel, comme elle a dit. C'est quelque chose, nous, on est plus logique, cartésien.
Mm-hmm.
Je pense que c'est pour ça que les relations hommes-femmes sont tellement compliquées.
Mm, là où ouais, vous, vous c'est vrai. C'est
ce côté émotionnel, parfois, ouais. Dessus.
Ouais.
Nous, c'est pas qu'on est je m'en foutiste ou autre, c'est que parfois, la chose, elle est logique, elle est simple.
Mm-hmm.
On va prendre les faits tels qu'ils sont.
Ouais.
Alors que vous, même s'il y a des faits, il y a les émotions aussi autour et la manière dont peut-être le message est véhiculé qui va rentrer.
Mmh.
C'est plus, on va dire, le résultat. Vous, c'est
oui.
Le chemin parcouru jusqu'à ce résultat.
Ah ouais.
Bon. On va mettre ça comme quote. Signé Marc. Mais en fait, là, ça montre vraiment qu'on a besoin des deux parents pour avoir cet équilibre-là. Oui. Moi, personnellement, j'ai l'impression que maintenant, dans notre société actuelle, c'est pas qu'on essaye d'effacer la place de l'homme, mais c'est comme si on en voit où on peut... Bon, la population peut envoyer un message comme si on n'aime pas les hommes ou tu vois, parce que voilà, peut-être qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un homme et voilà, ils mettent ça sur tout le monde, sur tous les hommes, ou ça peut être dû au fait que voilà, ils ont eu un père absent ou il y a plein de raisons, tu vois. Donc, c'est important d'avoir les deux parents dans la maison puisque voilà, il y a cet équilibre-là. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa place en soi. Ouais.
Moi, personnellement, j'ajouterais que avoir les deux parents, oui, mais ce n'est pas forcément une garantie aussi d'avoir forcément cet équilibre. Mais je pense qu'un enfant qui grandit avec ses deux parents aura toujours, on va dire, les deux côtés de la pièce sur comment gérer ses relations, on va dire, hommes et femmes. Parce que, comme tu as dit, parfois, il y en a qui ont grandi avec des parents absents. Et même si ce n'est pas forcément révélateur de la personne qu'on sera plus tard, je pense qu'il y a toujours un déficit de base qui se crée par l'absence d'un parent, mais qui peut être comblé par justement des figures, soit féminines ou masculines, dans l'entourage de l'enfant.
Ouais.
Parce que je pense que, par exemple, un enfant qui grandit qu'avec sa mère, donc un garçon qui grandit qu'avec sa mère, peut-être qu'il n'aura pas forcément ce côté un peu plus... Il y a des discussions entre père et fils qui ne seront jamais les mêmes qu'entre une mère et son fils, et vice-versa pour une fille et son père, une fille et sa mère. Et donc je pense que même si on est dans des familles, par exemple, monoparentales, c'est toujours bien de combler l'absence de l'un des parents par des figures dans l'entourage qui peuvent justement aussi l'aider à grandir de manière complète, si je dirais.
Donc, en gros, on est tous d'accord pour appuyer le fait qu'il est important d'avoir... Allez, on va pas dire un parent et... Enfin, un parent homme, un parent femme. Mais genre qu'on est d'accord qu'il faut que dans la vie d'un enfant, qu'il y ait cette figure féminine et cette figure masculine, parce que c'est de ça qu'est composé notre monde. Et que, justement, ça crée un équilibre, on va dire... Je sais pas dans quel domaine dire ça. J'allais dire émotionnel, mais non. Parce que sinon, je vais que sur le côté de la mère, mais... ça crée un équilibre, genre, chez l'enfant, quoi.
Je pense que c'est la manière dont on est composé. On a besoin de voir ces deux figures dans notre entourage grandir ensemble. Parce que même un débat que j'avais regardé un peu, c'était sur tout ce qui était, tout ce qui était homosexualité, hétérosexualité. Et justement, les parents lesbiennes faisaient cet argument dans lequel ils disaient que même si leur fille avait grandi qu'avec deux mères, elles l'ont exposé en fait à ces figures aussi masculines dans leur entourage pour qu'elles ne puissent pas manquer ce que par exemple un père aurait pu lui apporter. Et donc, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, je pense que c'est important de se dire s'il n'y a pas les deux parents, au moins qu'il ait accès à ces deux figures dans l'entourage du parent qui éduque son enfant.
Et qu'est-ce que vous en pensez de la tendance un peu qui est anti-homme? Si vous avez quelque chose à dire, parce qu'on peut voir maintenant sur TikTok, sur Instagram, partout un peu.
Trash.
Oui, tu vois, c'est des phrases comme ça.
C'est des phrases fortes.
Ouais.
Et on se permet quand même de dire un truc fort. Et genre, les hommes, ils n'ont pas le droit de répliquer. Parce que s'ils répliquent, ça va barder pour eux aussi.
Ouais, c'est
genre,
vrai.
Au nom du féminisme, pardon. bah, men are trash et tout, des trucs comme ça.
Ouais, c'est...
Genre,
c'est...
nous, on a le droit de jeter le venin sur eux, mais eux, ils n'ont pas le droit de riposter.
Ouais.
Je suis pas contre les féministes, hein, mais parfois, je trouve que...
c'est un peu trash, c'est très fort, c'est dommage. Toi, t'en penses quoi en tant que...
Ben, en tant qu'homme, j'ai plusieurs avis dessus. Je me considère pas du tout comme un féministe ou même contre le féminisme. Je me positionne pas trop dans ces discussions-là. Mais pour moi, il faut revoir en fait de quoi on parle. Parce que quand on parle du féminisme, et moi je pense à genre Simone de Beauvoir, on parle en fait, il y a plusieurs sortes de féminisme déjà. Et le féminisme en tout cas, qui prend le plus de place, c'est ce qui est considéré comme le féminisme égalitaire. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est pas forcément ça, parce que les femmes revendiquent en soi les mêmes droits que les hommes. Mais dans cette société, si on est honnête, la femme n'a pas forcément moins de droits que l'homme. Je pense que tout se situe dans certains domaines, certaines sphères de la société. Mmh. Où, oui, il y a une disparité entre les hommes et les femmes. Alors, on parle plus d'égalité, on parle d'équité. Mmh. C'est-à-dire être traité à la même valeur pour ce qu'on apporte.
Ouais.
Pas forcément, parce qu'en tant qu'homme, vous, en tant que femme, je pense pas qu'il y a des choses dans cette société que je peux faire, que vous ne pouvez pas faire. Mmh. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire à cause de ce que les hommes véhiculent comme image dans la société. Et là, du coup, on rentre dans l'ordre du privé, tout ce qui est sortir le soir seul ou des choses comme ça. Mais je veux dire, on a les mêmes chances, les mêmes accès, les mêmes égalités, je dirais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a parfois des discriminations dans l'emploi et autres. Mais dans l'ensemble, ce que les femmes revendiquent, pour moi, c'est un faux combat parce qu'on se trompe, en fait, de combat. C'est pas forcément l'égalité, mais l'équité, alors être traité à la même valeur qu'un homme. Bah, malheureusement, c'est la société patriarcale et tout. Oui, on y arrive. Mais moi, je ne pense pas en soi que... votre combat est infondé, parce qu'en soi, cette société est comme ça depuis la nuit des temps. Mmh. Donc votre combat est juste, mais je pense qu'il perd à un moment de sa valeur avec tous ces slogans men are trash.
Oui, men are trash.
En fait, c'est cette généralisation.
Ouais, voilà.
Au lieu de cibler réellement la source du problème.
Ouais.
Parce que c'est pas en disant men are trash dans la rue, au petit passant qui va acheter son pain, que,
que ça va changer quelque chose.
Que ça change quelque chose. C'est dommage en soi, que ça crée comme une séparation entre l'homme et...
Ouais. Alors que quand on est ensemble, je pense qu'on peut créer quelque chose de fort, justement, tu vois. Encore, par exemple, pour l'éducation d'un enfant aussi, tu vois. Mais là, si déjà tu pars sur cette mentalité-là que, voilà, men are trash, et que tu te mets... Enfin, tu fais un enfant avec quelqu'un, et que, genre, peut-être qu'il... vous n'arrivez pas, à un moment donné, ça ne va pas dans la relation. Parfois, tu vas véhiculer un message de haine indirectement à ton enfant. Et cet enfant va grandir avec cette image-là que, ah ouais, les hommes, ils sont dans cette case-là. Et c'est tous les hommes.
C'est tous les hommes. Et c'est dangereux.
Et genre, une petite erreur ça, qu'un homme peut faire, parce que juste, il est humain, tu vas le catégoriser, c'est parce qu'il est un homme.
Exact.
C'est vraiment un truc dangereux qu'on est en train de créer, que les femmes créent en faisant ça. Et on ne leur donne pas le droit de s'exprimer parce que voilà, ils n'ont pas le droit.
Le fond de votre combat est tout à fait louable, mais c'est la forme, je pense.
C'est la forme actuelle,
pour moi, qui fait qu'en fait, elles sont plus vraiment, enfin, elles, vous, ne sont plus vraiment prises au sérieux. Parce que y a tellement cette globalisation, comme tu dis, et ces généralisations, à un moment, on se demande même pourquoi est-ce que vous combattez.
Oh, on sait même plus.
On oublie le pourquoi.
Et on voit beaucoup, je pense, de vidéos comme ça où des féministes viennent. En brandissant des pancartes, des choses.
Ouais.
Et quand elles sont en face d'un homme qui connaît réellement le sujet, après on se rend compte qu'en fait il y a un fossé entre ce qu'elles croient combattre et ce qui est réellement la source du
problème. Ouais.
Moi je pense qu'on s'est éloigné au fil des années
du combat. Ouais.
Mais dans le PowerPoint que vous avez mis, je pense que vous avez parlé à un moment des attentes sociales. De la pression sociale, je pense.
C'est tellement la pression. T'as l'impression d'être sous pression, toi?
Enfin, vis-à-vis des hommes, tout ce qui est santé mentale, tout ça.
Ouais.
Et bah, j'y avais réfléchi, parce que en revenant dans le train, j'y réfléchissais. Je trouvais cette question un peu tricky, parce que je me suis dit, moi, en tant qu'homme, du coup, la place que j'ai, on se dit qu'on part avec un avantage sur les femmes. Or, sans forcément dévaluer tous les combats que vous avez au quotidien en tant que femme, être un homme, je dirais, dans ces sociétés... C'est quelque chose, en fait, d'assez subtil, parce que si tu es trop en phase avec toi-même, tu peux être vu, justement, de ce côté un peu faible. Si tu mets trop en avant la santé mentale, le fait que les gens ne sont pas assez. Mais si jamais tu n'es pas, justement, en phase avec ces côtés-là, je pense qu'on tombe un peu comme les générations de nos parents. C'est parce que pour eux, c'est toujours en mode, oui, votre génération est faible, Mais moi, j'ai l'impression que c'est genre, ok, j'ai l'impression peut-être faible mais consciente, et eux, c'est peut-être fort mais un peu brisé. Mmh. Et du coup, genre, il y a un peu cette cassure, je pense, qui se fait. C'est pour ça que moi, en tout cas, je pense qu'il est important pour nous en tant qu'hommes d'avoir cet endroit où on peut quand même, même si on est des hommes, s'ouvrir sur certaines choses, s'ouvrir sur notre passé, nos traumas et autres. Parce que ne pas les traiter maintenant, en soi, ça laisse la place à juste répéter.
Ouais, exactement. C'est des traumas. Ouais, voilà.
À un moment ou un autre. Ouais. Il ne faut pas que tout ce qui est transmis de génération en génération puisse perdurer.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est des choses, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des combats qu'on doit absolument régler maintenant, parce que sinon, c'est ton fils à toi qui devra régler ça, parce que ouais. Ah, mon père, il n'a pas réussi à briser justement ce cycle générationnel. Ouais, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Du coup, si notre société permet aux hommes aujourd'hui d'être en phase avec eux-mêmes, bah, qu'ils en profitent en fait pour justement régler ces problèmes émotionnels-là que nos pères à nous, ils n'ont pas pu régler. Comme ça, nos fils, ils puissent avancer dans un autre domaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait à la mode. Là, maintenant, c'est vraiment tout ce qui est psychologie et santé mentale et tout ça. Dans la génération prochaine, on ne sait pas encore c'est quoi. Mais si tu sais déjà régler ça, ça fera un pas en avant
pour ton fils
plus tard. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant, ça.
Parce que, du coup, tu écris redéfinition de la masculinité. Moi, je dirais plus qu'elle se fluidifie. Parce qu'elle s'adapte en soi à l'évolution de nos mœurs actuelles. Et je pense qu'on peut voir que, de la même manière qu'avant, nous, la masculinité, en tout cas, à laquelle on a grandi, qu'on nous véhicule, c'est le fait d'avoir un statut social, une bonne carrière, d'être fort, un peu dominateur dans les endroits de notre vie. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle s'aligne un peu plus, elle s'aligne en fait avec cette idée qu'on peut aussi être masculin tout en étant en phase avec la personne qu'on est, prendre conscience, être vulnérable, mais surtout aussi s'entraider, s'aider les uns les autres.
Oui,
il n'y a plus vraiment cet aspect, je veux dire, individuel. Mm-hmm. Parce qu'avant, quand on parle de masculinité, c'est un peu genre, ça va en lien avec la virilité. C'est un concept un peu sociétal, on domine sur les autres. Mm-hmm. C'est plus un concept individuel dans lequel on prend conscience de qui on est pour l'adapter justement aux autres sphères un peu de la société. Mm-hmm. Et je pense que c'est bien qu'on évolue vers une société comme ça, parce que bon, quand je vois comment la société évolue aujourd'hui, on peut se dire que le futur ne présage rien de bon.
Mais si on retire, par exemple, le travail à l'homme, on retire
son statut,
mm-hmm. est-ce que ça reste un homme ?
Qu'est-ce qui fait un homme ?
Mais ça, c'est une très, très bonne question. Parce que là, je pense que du coup, on part un peu dans une discussion un peu philosophique.
Oui, c'est très philo, là.
Y avait un philosophe que j'aime beaucoup, Rousseau, qui parlait justement de la nature de l'homme. Qui, lui, disait que de base, l'homme est bon par nature, mais pas forcément bon dans le sens où nous, on l'entend aujourd'hui avec tout ce qu'il a appris. Mais c'est parce qu'il est en phase avec qui il est de base. Et il laisse justement cet homme un peu animal, tant bon que mauvais, s'exprimer. Mm-hmm. Il n'est pas en fait influencé par l'image que la société veut que l'on soit. Parce que justement, l'homme en société, donc celui qu'on a aujourd'hui, il est influencé par les politiques, par les parents, par les idéologies véhiculées par les groupes sociaux et autres. Et en fait, ça dénature un peu l'homme qu'il est de base. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus un peu le paraître, l'image qui est mis en avant.
Oui.
Et donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, comme tu as dit, on lui retire le travail, l'argent, peut-être même les biens matériaux et autres, qui est-il au fond ? Et je pense que le fait de chercher toutes ces choses, les biens matériels, l'argent, les statuts et tout, c'est cette quête en fait de s'éloigner de qui on est réellement.
Ouais.
Peut-être pour même... On a peur en fait d'affronter la personne que l'on est intérieurement. Et donc, on cherche en fait à
se distraire avec des choses.
Voilà, displayer sans mettre le problème sur autre chose.
Sur autre chose. Voilà. Mmh. C'est vraiment ça.
Mais vous ne pensez pas que ça peut mener à des frustrations ?
Ben justement, je pense que oui, parce que... Je n'ai pas envie de rentrer dans tout ce qui est le côté un peu chrétien, tout ça.
Non, vas-y.
Mais tu peux.
Ah, on a le droit.
Oui, yes. Oui.
C'est juste que quand on prend le livre d'Ecclésiaste, Salomon le dit qu'en fait... Dieu a donné des richesses à l'homme et des biens, mais il n'en est jamais satisfait.
Ouais.
Et je pense qu'en fait, l'homme est orgueilleux et aussi avare. De base, il cherche toujours plus. C'est un éternel insatisfait en soi. Et si on n'arrive pas justement à être reconnaissant et à réellement se poser, se dire que ce que l'on est, ce qu'on a est suffisant, on aura toujours cette quête de vouloir plus, sans forcément atteindre. Tout n'est que vanité. Il y aura toujours plus que nous. Et je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter. et savoir que déjà nous nous sommes éphémères, notre temps ici il est compté, mais si on a, on est toujours en quête de plus, on n'arrivera jamais en fait à vivre une vie pleinement.
Mais cette frustration, elle est due aussi au fait que bah justement si tu profites pas du cadeau que cette société nous donne de pouvoir être en phase avec toi comme tu l'as répété, bah tu vas être frustré. Justement en fait quand tu es en phase avec toi-même et que tu ressens une émotion qu'elle soit positive ou négative, il faut prendre justement ce temps de l'as dit et te dire ok, cette frustration elle vient d'où en fait, c'est quoi cette source, est-ce que je peux régler ça maintenant, quel outil j'ai ou quelle personne pourrait m'aider dans ces choses-là. Et je pense que si un homme est capable de faire ça, c'est vrai qu'il est un homme, mais ça revient vraiment à Rousseau, ce qu'il disait de enfin, malgré tout ce qu'on... Enfin, si on te retire tout, tu sais qui tu es toi-même. Ouais. Et tu sais te gérer, t'auto-gérer toi-même, tu vois.
Ouais.
Je pense que dans la vie, on est appelé à ressentir toutes ces émotions, surtout les émotions négatives, parce qu'en fait, elles vont nous pousser à sortir, enfin, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir cette percée-là, tu vois, ce breakthrough. Parce que t'as des murs à percer, en fait, tu vois. Et ces murs, tu sais pas qu'ils existent tant que tu n'es pas exposé à certaines situations... dans ta vie. Et du coup, si tu es toujours dans la joie et tout, enfin, c'est bien, hein, t'es toujours dans la joie. Mais parfois, il faut que tu sois dans des situations qui te mettent face à des choses qu'il faut régler, tu vois. Et parfois, j'ai l'impression que les hommes, ils ont trop cet égo-là et ils peuvent pas s'avouer qu'en fait, ouais, ils sont frustrés. Ouais, du coup, ils vont reporter ces émotions-là, peut-être, bah, sur leur femme en les frappant, tu vois. Parce qu'ils ont un truc que la femme n'a pas, c'est qu'ils ont la force physique, tu vois. Et que parfois, la femme, ben, elle, justement, elle, c'est quelqu'un de très émotionnel et elle peut détecter, ah, mec, ici, toi, tu vas pas bien. Et elle peut te faire remarquer, c'est toi qui vas pas bien. Et du coup, ça peut le frustrer. Et comme il connaît pas ça chez lui, ben, il va utiliser la seule chose qu'il a, c'est ses muscles.
Ouais.
Tac, et on part sur le
Enfin,
ça, c'est mon humble avis. Après, j'en sais pas. Mais...
Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Pour rebondir dessus, je pense que du coup, ce que tu décris, on passe un peu de cette masculinité du coup, qu'on nous enseigne toute notre vie à du coup une masculinité saine où, en fait, nous, on grandit un peu dans cette boîte où on renferme tout. Je prends vraiment une généralisation parce qu'il y a sûrement des gens ici qui ont grandi dans des familles saines. On leur a appris à développer, à gérer leurs émotions. Mais la plupart d'entre nous, on grandit en vrai dans cette boîte où tous nos sentiments sont réprimés comme ça. On n'a pas forcément le droit de les
exprimer.
De les exprimer. Et la, on va dire, le cliché dans les familles subsahariennes, c'est que si on n'en parle pas, ça n'existe pas.
Exactement.
Et donc, du coup, à partir du moment où on arrive à se dire que ce qu'on éprouve n'est pas forcément négatif, même s'il l'est, parce qu'il peut servir à notre positif, en fait. C'est-à-dire les choses mauvaises qui nous arrivent, si on en prend conscience, on peut, sur base de ces échecs, ces chutes, rebâtir pour justement aller vers quelque chose de meilleur et se créer un meilleur futur. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on avance, on croit avancer, on n'exprime rien. Et c'est un peu comme cette boîte de Pandore après où, à un certain âge, tout explose. Le plus souvent, comme tu as dit, quand ça explose, ça peut être la violence physique, ça peut être la violence morale, la violence verbale, mais ça peut aussi être la manipulation, le mensonge. En fait, tomber dans tous ces schémas, on va dire, qui ne te font pas avancer et qui t'amènent encore plus vers le bas. Et parfois, on se rend compte de ça vers quoi, la trentaine, quarantaine. Mais tout ça, c'est des traumas qu'il fallait traiter bien avant. Et parfois, ça rentre le plus souvent, la classique, en se mettant en relation avec quelqu'un. Tu penses que tu es dans un état stable, tu penses que tu es bien, tu penses que tu as accompli cette image d'homme que la société veut que tu aies. Mais c'est en te confrontant à une femme, parfois, que tu t'en rends compte qu'en fait, il y a tellement de choses
qu'il fallait les régler.
Et c'est ça, parfois, c'est bien. Le truc, le côté positif d'être en relation avec une personne, c'est qu'elle aura cet effet miroir avec toi, tu vois. Mais maintenant, il faut être conscient que quand tu es dans une relation, il y a ça qui arrive. C'est pas que vous allez juste avoir une vie en rose comme Disney nous le promet et tout ça. Non, c'est en fait, tu rentres dans une autre phase de travail, un autre niveau de développement personnel. Du coup, tu es prêt à t'exposer. On en parlait d'exposition tout à l'heure. C'est genre, tu te mets à nu en face d'une personne qui ne te connaît pas. Et ensemble, en fait, il faut accepter que cette personne, elle te dise en face les problèmes qu'il y a chez toi. Et il faut avoir assez d'humilité pour accepter ce qu'elle te dit pour pouvoir travailler dessus.
Ouais.
C'est super intéressant. Ouais. Ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire, je ne sais plus de
les
qui
quatre...
c'est. Les quatre accords Toltec. Ça dit quelque chose?
Toltec, je connais, mais je ne connais pas ce livre.
Ah. Et du coup, il expliquait au début du livre qu'on était... on est des êtres, en fait, de lumière.
Mm-hmm.
Et que, à cause de... Enfin, on vit dans une société qui a un rêve, mais ce rêve n'est pas forcément vrai. Et du coup, c'est un rêve qu'il a créé lui-même,
mm-hmm.
et il nous l'a inculqué. Nos parents aussi, ils ont un rêve qu'ils nous inculquent. Et du coup, on n'est jamais vraiment soi-même, tu vois.
Okay, okay.
Tu vois, on n'est jamais vraiment soi-même. Et du coup, ici, il essaye un peu de déconstruire ça, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a eu le temps de s'isoler de la société et tout ça. Et il est rentré dans une réflexion tellement profonde que je pense que moi, personnellement, quand j'ai lu les pages, j'ai l'impression qu'il a rencontré Dieu. Je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais à un moment, il a fait...
Bien,
je pense bien, parce qu'il a fait une allusion à un verset biblique qui dit que au commencement, la parole... Mm-hmm. Je ne connais pas très bien, bref, dans Jean 1.
Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu.
Oui, voilà.
La parole était Dieu.
Ouais. Et du coup, un des trucs qu'il donne, donc quatre accords Toltec, c'est comme si c'était des... je ne sais plus.
Des lois.
Des lois
des
ou
principes.
Des principes, oui, des principes, je préfère. Que ta parole soit impeccable, il y a ça. Ne prends jamais les choses personnellement, quoi qu'il arrive, tu vois. Je suis juste arrivée à ces deux-là, donc je peux que citer ces deux-là. Mais c'était intéressant de se dire que, waouh, imagine, genre maintenant, bon, comme on est dans le domaine des hommes, tous les hommes se disaient ça, genre en mode que mes paroles soient impeccables. Et il a décomposé le mot impeccable. Il disait que ça venait du latin. Donc, le 1, c'est sang,
mm-hmm.
et peccable, c'est péché. Mm-hmm. Donc, en fait, pour lui, il faudrait parler sans péché. Parce qu'en fait, quand on parle, on nous a appris en fait, à maudire les gens. En disant, genre, en fait, quand tu dis quelque chose, la personne qui t'écoute, en fait, elle reçoit cette parole et elle peut faire un accord avec ce qui est dit. Par exemple, si je dis à Jessica, « Oh, ton pull, il est moche », ou alors « Je trouve que tu n'es pas belle aujourd'hui », eh ben elle peut faire un accord avec cette parole-là.
Mm-hmm.
Et elle va finir par le croire. Ouais. Et c'est comme si ça va créer une semence. Enfin, c'est très biblique, hein, tout ce qu'il raconte. Et du coup, ça va faire que peut-être que dans 10 ans, je vais retrouver une jeune fille qui est fanée, on va dire.
Mm-hmm, ouais.
Parce qu'en fait... Il y a 10 ans, bah, elle a fait un accord avec cette parole que je lui avais dit. Et du coup, il fait comprendre que notre parole a un pouvoir, mais genre au point qu'il appelle ça de la magie noire même, tu vois.
Mmh.
Tellement que genre, bah, c'est vraiment comme dans la Bible, genre la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce qu'on nous dit, il y a vraiment un... Enfin, tout ce qu'on dit, ça a un pouvoir. Et c'est à nous d'accepter ou de pas accepter ce que l'autre dit, tu vois.
Mmh.
Et maintenant, moi, je me dis, en lisant ce livre, je me dis, mais attends, il faut avoir une force d'esprit pour pas accepter de méditer sur les paroles qui sont dites sur toi, tu vois. Parce que souvent, on entend plein de choses et quand on rentre à la maison, on médite dessus.
Ouais.
Et puis tu te dis, ah, mais ce que l'autre l'a dit, là, peut-être que c'était vrai, tu vois.
Mmh.
Et du coup, je me dis, comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses, tu vois, à pas accepter ce que les gens disent.
Mm.
Enfin, je sais pas si vous aurez des trucs par rapport à ça.
Des conseils,
non. Oui. Comment ne pas faire en sorte que, même si t'entends un truc, que ça rentre pas...
Déjà, il faut avoir la connaissance pour tout ça. Parce que moi, je me dis, voilà, on est des personnes qui aiment bien lire, qui écoutent des podcasts et tout ça. Il faut faire des recherches, il faut connaître toutes ces choses-là que nous, on connaît là maintenant. Tu vois, juste le fait que t'as lu le livre-là, tu sais que voilà, la parole, ça a un pouvoir, t'as cette connaissance-là. Donc, je pense que la première étape, ce serait de
s'informer.
Et aussi, ça montre que en tant qu'humain, on a le choix d'accepter une pensée ou de la rejeter.
Mmh.
On n'est pas forcément obligé d'accepter. Si toi, tu me dis que ouais, mon pull, il est moche et voilà, ça me suit pendant 10 ans, bah, je suis pas forcément obligé d'accepter cette pensée. C'est en fait quand une pensée ou une idée est plantée dans notre mind, et ben, on a le choix de dire ok, je veux que cette semence grandisse ou je veux pas du tout, tu vois. Mais il faut avoir cette connaissance-là parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas et qui pensent que chaque pensée, chaque idée qui est envoyée de leur côté, qui doivent accepter ça, tu vois. Donc moi, je dirais d'abord avoir la connaissance, donc s'instruire. Et puis, savoir aussi que tu as le pouvoir de rejeter les mauvaises pensées ou les pensées que tu ne veux pas avoir. Parce que ce qui est dangereux, c'est notre subconscience. La subconscience, elle n'est pas du tout consciente.
C'est pas une blague.
Mais dans le sens que voilà, elle prend tout comme réel, tu vois. Donc tu peux dire que oui, aujourd'hui, je suis multimilliardaire. Ta subconscience, elle est là. Ah, ok. Donc nous, on est, voilà. Mais il faut faire attention avec ça parce que c'est quelque chose qui absorbe tout, la subconscience. Donc voilà, c'est ce que je dirais.
Ben, moi, du coup, parce que je pense que vous avez bien développé l'aspect en soi du maintenant, la connaissance qu'on devrait avoir, tu sais, comment un peu pallier à tout ça. Mais moi, je pense aussi que ça, pour ajouter à ce que vous avez dit, ça commence aussi dans l'enfance. Nos parents, je pense, jouent un rôle énorme, peut-être jusqu'à nos 7 ans, 8 ans. Je connais pas les statistiques exactes, mais je sais que jusqu'à un certain âge, le cerveau est très malléable.
Oui.
Du coup, ça veut dire que toutes les paroles que les parents soient infusent à leurs enfants, parce que aujourd'hui, je pense qu'on a tous le cas où on va parler à quelqu'un et quelqu'un va te dire ce que son père ou sa mère lui a dit il y a 15 ans.
Ça reste.
Il y a des paroles qui restent ancrées, que tu le veuilles ou non. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve dans les mêmes schémas, parce que des fois, il y a des choses, tu penses que ça n'a plus d'effet sur toi, mais c'est qu'en te retrouvant dans une certaine situation que tu vois si t'es réellement guéri ou pas.
Exact.
Et je pense que du coup, nous, en tant que parents, un jour, si Dieu nous fait grâce d'avoir des enfants, c'est la manière dont nous, on perçoit la société et quel genre d'hommes et de femmes on veut qu'ils soient dans cette société-là. Dans le sens où ce qu'on leur inculque, par exemple, moi j'ai grandi vraiment avec cet aspect où c'était tu seras toujours vu différemment des autres, tu es noir, donc tu auras plus de combats.
Oui, on a tous eu ce discours, oui. Donc,
voilà, que tu dois
travailler
finir tes études, la carrière, tout ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on prend le temps de réellement aussi, genre, build up their spirit?
Est-ce qu'on
prend le temps de réellement les façonner? Je veux dire, en mode, comme Dieu veut qu'on le fasse, mais les façonner en étant des gens intègres, un peu. Parce qu'il y a ce livre de Robert Auguste, To Be a Man, où il dit justement que, en fait, la vraie masculinité, la vraie force de l'homme, c'est quand son intégrité, sa capacité à agir, mais aussi sa vulnérabilité vont de pair ensemble. Okay. Donc, est-ce que les gens, lorsqu'ils éduquent leurs enfants, arrivent justement à faire la part des choses entre, oui, on veut qu'ils deviennent des gens peut-être influents, ou qu'ils aient en tout cas une bonne vie, parce qu'on sait comment la vie devient dure aujourd'hui. Mais à force de trop mettre l'accent que sur ça, est-ce qu'on n'oublie pas aussi le côté humain? Parce que je pense que le côté humain a tout aussi du poids que le côté professionnel.
On
veut qu'ils réussissent dans la vie et autres, mais avant tout, on veut qu'ils soient des bonnes personnes.
Exact,
Et qu'ils puissent justement ne pas avoir, comme la plupart des gens qu'on connaît, peut-être des blessures intérieures ou autres qui vont les suivre toutes ces années. Et puis, ils se retrouvent en relation devant certaines difficultés. Il y a des traumas qui ressurgissent. Oui. Donc, je pense que c'est tout un travail à faire dans leur enfance aussi. Des paroles d'encouragement.
Oui,
ou autre.
Ouais.
Savoir aussi leur faire comprendre que le monde est différent, qu'ils vont être confrontés à des choses. Pouvoir aussi ouvrir leur esprit pour pas qu'ils soient fermés d'esprit. C'est tellement de choses. En vrai, être parent, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
Je dis, voilà.
Tu viens juste de citer, je suis là, oh my gosh.
Parce que je pense que moi, ce que j'ai toujours dit à ma mère, je serai éternellement reconnaissant pour l'éducation qu'ils m'ont donnée et autres. Et maintenant que j'ai 23 ans, je peux leur parler un peu plus ouvertement. Parfois, on s'assied et je leur dis, oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je pense qu'il y avait d'autres manières de véhiculer ce message. C'est pas pour eux, parce qu'ils n'auront plus d'enfants après, mais c'est juste pour leur faire comprendre que je suis reconnaissant, mais que voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que la manière dont ils m'ont éduqué, si je peux aujourd'hui avoir ce genre de discussion-là avec eux, c'est qu'ils ont quand même fait un bon travail pour me laisser un peu cette place pour m'ouvrir. Parce que je sais que c'est pas toujours facile d'aller parler aux parents librement. Donc je pense que dès l'enfance, il y a tout un travail à faire. Et puis eux, en grandissant, leur faire germer en eux cette volonté de vouloir toujours apprendre plus. C'est comme tu vous avais dit, la connaissance. Mais c'est pas tout le monde qui prend la peine de s'informer, qui prend la peine de lire, qui prend la peine un peu de... C'est même de filtrer tout ce qu'ils ont reçu.
Donc
c'est tellement de choses en vrai. Moi, je pense que c'est l'apprentissage de toute une vie.
Construire l'humain. C'est ça. Je pense même que c'est le truc le plus primordial. Même si on ne t'inculque pas la culture du travail ou quoi, je pense que tu seras humain toute ta vie, en fait. Mm-hmm. Une profession, tu peux perdre ça. Je sais pas, un talent, ça peut se perdre aussi si tu l'entraînes pas. Mm-hmm. Le fait d'être un bon humain, un bon homme, ben, c'est un truc qui va rester sur le long terme. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec papa dans la cuisine, ou plutôt un conseil qu'il m'a donné. Il m'a dit, est-ce que tu prends le temps de construire ton esprit, en fait ? Parce que quand ton corps, il sera fatigué, c'est lui qui sera plus fort et qui va te dire en mode, non, Tryphon, tu dois pas lâcher, ouais, tu dois avancer, tu vois.
Très bonne question.
Est-ce que tu prends le temps ?
Très bonne question.
Ouais. Très bonne question.
Parce que je pense qu'en vrai, on est défini premièrement par l'homme en nous, le primal que nous sommes, ouais, plutôt que ce qu'on laisse paraître.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Bon, tout ça, c'est qu'une enveloppe.
Voilà, ouais, parce que je pense qu'on nous apprend, quand on ne vient pas à porter ces masques
pour
un peu genre fit in the society.
Ouais, ouais.
Et tu ne prends pas le temps, peut-être que le seul temps que tu prends, c'est quand tu te couches ou tu es seul.
Ou même, il y en a qui évitent à être seul, tu vois.
Et parfois, on dit que ceux qui n'arrivent pas à dormir, justement, c'est parce que l'esprit est dérangé.
Ah, ok.
C'est la nuit. On dit de toute façon que le repos, c'est pour les justes. Il y a beaucoup de soucis. Mais parfois, le seul moment en vrai qu'on aura pour réfléchir, pour avoir ce moment de rétrospection un peu sur nous, c'est au moment où on va se coucher la nuit.
Ouais. Quand il y a plus de bruit.
Réellement.
Ouais.
Parce que quand t'es avec tes amis, est-ce que t'es réellement toi-même ou c'est une image que tu donnes quand tu vas au boulot, quand tu vas à l'église, quand tu vas avec tes parents, est-ce que t'arrives réellement à être toi-même ou chaque jour tu dois porter un nouveau masque?
Tu t'adaptes à la personne.
Faut pas faire l'amalgame. Je sais qu'au boulot ou à l'église avec des amis, on va pas se comporter de la même manière. Il y a des codes à respecter aussi, Mais est-ce qu'au fond, on ne fait pas de compromis sur nos valeurs pour justement faire plaisir à d'autres personnes? Et je pense que ça, c'est aussi tout le travail d'une vie. Apprendre à réellement être soi-même et pas faire de compromis sur qui l'on est.
Ouais.
Et là, alors, l'homme pourra, je veux dire, l'homme avec un grand H, homme et femme, pourra réellement trouver sa place. Parce que la place dans la société, elle évoluera tout le temps. Donc, est-ce que l'homme a perdu sa place? Ça, je ne sais pas, mais il doit en soi apprendre à faire avec son temps. Et je pense que ça commence tout doucement, premièrement, par être en phase avec nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est réellement une place qui a changé pour l'homme et pour le bien, je dirais. On est plus en phase avec nous-mêmes aujourd'hui. On nous laisse plus de place pour exprimer nos émotions et nos sentiments.
Ouais.
En tout cas, il y a moins de tabous, je dirais, sur ce côté-là.
Ouais. Le tabou commence à être banni. Ouais.
J'aime bien comment t'as tout résumé.
C'était magnifique. C'est vraiment intéressant d'avoir la vision des hommes parce que j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas souvent
la place. Ouais.
Mais je pense que...
Mais ça commence à arriver avec les alpha men.
Attention. C'était red pill truc-là, attention.
Mais je pense aussi que dans ce genre de discussion, on ne donnera pas forcément le micro parce qu'on sent déjà que genre, we are entitled.
On sait ce que...
Tout leur est déjà donné à qui? Pourquoi est-ce qu'on va leur laisser là? Et donc, on croit mieux savoir que nous. Mais je pense que c'est parfois des études qu'on voit. Une femme qui avait fait l'expérience d'être un homme pendant toute une semaine et qui, à la fin, apparemment, s'est suicidée. Je retrouve la vidéo. Mais ce n'est pas forcément pour dire que les hommes souffrent plus que les femmes. Mais je pense qu'il y a des attentes au niveau des hommes beaucoup plus hautes que celles des femmes. Ouais. Ça commence avec, dans les relations... Parfois, en fait, l'image qu'on a de l'homme, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui doit être l'image forte. L'homme ne peut pas pleurer, l'homme ne peut pas faire ci, ça. Parce que tu es censé être cette figure en vrai stable.
Stable, qui ne bouge pas.
Si toi, tu bouges maintenant,
c'est chaud.
C'est pour ça qu'il est important dans les relations de pouvoir trouver ces personnes avec qui on va pouvoir s'ouvrir. Et je sais qu'il y a toujours ce stéréotype de... Quand on est en relation, quoi, on peut pas pleurer devant sa femme, on peut pas s'ouvrir aux femmes, parce que justement vous, les êtres émotionnels, peut-être que vous attendez aussi des hommes qui soient justement cette figure un peu plus forte que vous. Et à partir du moment où vous voyez ce moment de faiblesse, peut-être inconsciemment ou non, vous perdez un peu cette image de l'homme
stable. Ok. Waouh.
Ça, je pense, c'est une autre discussion.
C'est une autre discussion. J'espère jamais avoir ça, que je perds cette image, quoi.
Non, mais qu'il faut juste comprendre par rapport à tout ce qu'il a dit déjà. Tu peux prendre ça note dans ta tête, que l'homme, il a le droit d'avoir des émotions. Et que c'est très sain, qui s'ouvre à toi, en fait.
Parce que nous,
il s'ouvre à qui? C'était pas
mais
toi.
Parce que nous, en tout cas, bon, voilà, désolé de vous dire, mais entre nous, c'est vrai que beaucoup, on se dit, on peut pas s'ouvrir. à vous de peur, c'est justement, de perdre, en fait, cette image. Et c'est même pas genre, une généralité, c'est une réalité. S'ouvrir à notre copine, notre mari. Bon, s'ouvrir, en vrai, à la femme qu'on aime, c'est un risque énorme. Déjà, être vulnérable entre nous, hommes, c'est une étape. Mais être vulnérable devant celle qu'on aime, c'est quelque chose dont on préférait pleurer seul et puis dire que tout va bien. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à s'ouvrir parce que on vous voit tellement sur un piédestal. On ne veut pas en fait que vous nous voyez plus bas que ce que l'on est peut-être déjà en ce moment-là. En fait. C'est pour ça qu'on sera toujours là à mettre notre meilleur masque, notre meilleur sourire, tout ça. Mais pleurer devant la femme qu'on aime, c'est quelque chose. Même s'ouvrir. Parce qu'on se dit toujours que vous pourrez utiliser ça contre nous.
Contre que vous.
Une dispute là-bas.
Il y a des femmes qui sont des sorcières, je suis désolée, et qui font ça.
Il faut se marier avec une bonne femme.
C'est celui qui trouve une bonne femme.
Non, une bonne femme, hein, parce que... Ouais, c'est chaud. Non, purée, arrête.
Oui, mais moi, j'ai eu envie de continuer, mais là, on arrive à la fin.
Tu me donnes mal au cœur. Oh my gosh.
C'est pour ça que je dirais jamais que l'homme souffre plus que la femme, parce que jamais je pourrais dévaluer. De value, genre les challenges et les obstacles auxquels vous faites face dans la société. Je pense que c'est juste deux mondes différents.
Oui.
Les attentes envers un homme, les attentes envers une femme. Et nous, du coup, vu qu'on intériorise énormément de choses, ça, je pense qu'en vrai, tout remonte depuis la Genèse. On n'est pas forcément des êtres, nous, qui vont s'exprimer aussi facilement que vous. Et donc, ça crée énormément de problèmes intra-relationnels entre les femmes et les hommes. On va pas régler ça en un podcast, mais
malheureusement
qu'on aura pu donner
pas,
aussi des pistes aux personnes qui se posent ce genre de questions.
C'est vraiment triste, c'est hyper triste. Parce qu'il y avait quelques années passées, ou même l'année passée, j'avais lu que les statistiques montrent que c'est plus des hommes qui se suicident que les femmes.
Les burn-out.
Ouais, les burn-out et les attentes et tout ce qu'ils ont sur leur dos.
Quand même une vraie pression. En
fait.
J'ai l'impression que nous, on est vraiment genre les drama queens et que genre, on est plus mis en scène parce que voilà, c'est le côté émotionnel et que l'homme, comme il a pas le droit de montrer ce côté-là, bah, à force d'être intériorisé, comme vous l'avez dit, bah, il implose et au point de sauter la vie. Quoi.
Je pense que les générations ne sont pas les mêmes dans le sens où nous, nos parents, ils pouvaient... d'Afrique venir ici avec juste la foi, tout va marcher. Mais nous aujourd'hui, avec toutes les attentes et la manière dont on nous inculque, je pense, dans les familles subsahariennes, que les études, le diplôme, c'est tellement important.
Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne veulent pas se marier si jeunes, dans le sens où ils veulent déjà avoir toute leur vie d'abord.
On a
la même horloge que biologique. Nous, c'est vraiment l'horloge financière là.
Oui, c'est une horloge financière.
On se dit qu'il faut avoir, fait ça, ça avant de. Alors
stable.
Que ça se trouve, la femme, elle est déjà là, vous pouvez grandir ensemble.
Ouais.
Mais en fait, tu te dis que non, parce que tu ne vas pas la faire quitter ses parents pour aller se galérer ensemble.
C'est vrai.
Et je pense que beaucoup, on met d'abord nos objectifs premiers, genre de carrière et autres, et on oublie du coup ce côté humain. Toute notre vie, on est genre en mode dirigé par ça, où on met nos objectifs, un peu nos attentes en premier. On ne prend pas le temps de réellement se poser, savoir qui on est.
Ouais.
Et c'est pour ça que quand on se met du coup avec quelqu'un, ben, est-ce qu'on se clash un peu, parce que tu te retrouves exposé, comme tu as dit, à ce miroir.
Ouais.
Tu vois réellement qui tu es, en fait.
Ouais.
Est-ce que cette pression sociale, en fait, ça expose pas, enfin, ça nourrit pas, en fait, juste l'ego de l'homme?
Moi, pour parler de mon expérience, en tout cas, je sais que je me voyais d'une certaine manière. Puis j'ai eu ma première relation, et c'est là que je me suis vu effet miroir, en fait. J'étais pas du tout comme je pensais l'être. Et ça te... En vrai, ça te fait mal. Ça crée vraiment un combat comme ça. Parce que t'as tout ce que les gens disent de toi, te connaissent juste en amitié.
Quand tu es avec quelqu'un, c'est là que
tu vois réellement les choses sur lesquelles tu dois travailler, les choses qui te trigger. Mais ça nourrit l'ego, parce que tu te dis avant d'être avec quelqu'un, oui, moi je veux faire ça et ça et tout. Mais quand t'arrives avec quelqu'un, maintenant c'est tellement de sacrifices à faire, tellement de concessions. Et c'est là que tu te rends compte de réellement la personne que t'es, en fait, en relation. Et je pense que c'est la meilleure image que t'auras de toi-même quand t'es avec quelqu'un. Parce que les groupes sociaux, tout ça, tu peux toujours... Il n'y a pas vraiment d'attente, en fait. Mais en amour, en relation, il y a des attentes.
Ouais, il y a des attentes, ouais.
C'est ça.
Il y a des attentes. Ah, Seigneur.
On devrait être plus indulgente avec les hommes, alors.
indulgente, je dirais pas ça, mais compréhensive.
Compréhensive, ouais.
Dans le sens où je pense que beaucoup d'hommes ne prennent pas le temps de s'asseoir et de vraiment prendre le temps de gérer leurs émotions. Mmh. Parce que c'est vu comme quelque chose de femme un peu faible, je dirais. Mmh. Pas de manière grossière. Et c'est juste que quand du coup vous êtes avec des hommes, le plus souvent la première réaction qu'ils vont avoir, elle est impulsive. Et c'est quelque chose de logique. En vrai, ils ne prennent pas le temps de prendre les émotions en compte dans tout le problème. Alors que vous allez analyser la chose un peu plus de manière logique, de manière un peu plus profonde.
Profonde, ouais.
On est en surface, on prend juste ce qui allait faire.
Ouais, ce qui s'est passé.
Ouais. On va avec, alors que ce qui s'est passé, il y a la forme aussi à prendre en compte. Mmh. Mais nous, tout ce qui compte, c'est le message délivré, en vrai. Donc, c'est vrai, je pense que des deux côtés, il y a un travail à faire, un travail de compréhension.
Ouais.
À
ouais,
nous de comprendre que vous, il y a vos émotions qui sont en compte. Et peut-être vous, de vous dire qu'il n'a jamais pris le temps, justement, de comprendre les émotions, parce que parfois vous nous comprenez mieux que
oui, que vous-même,
que nous-mêmes.
En fait. Ouais.
On devrait avoir plus de conversations comme celle-ci, quoi.
Mais parler, ça libère, hein. Ouais, la parole libère.
Exactement. Ok, on arrive à la fin.
Ouais, on arrive à la fin.
C'est demain.
Oui.
Ça devenait intéressant.
En tout cas, c'était une très belle expérience.
Ouais. Oui, t'as aimé?
Je m'attendais à plus stressé que ça, mais en fait.
Ouais, mais c'était très posé, hein,
très posé, ouais. Calme.
Mais c'est bon, en tout cas, qu'elle a bien fait.
Voilà, à la semaine prochaine.
Read the room.